Bienvenue sur Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je suis Adrien Garcia, designer et fondateur de la marque de vêtements Réuni. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'une personnalité du monde de la mode pour comprendre son parcours, ses problématiques et ses stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Entreprendre dans la mode, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage chaque vendredi les outils, les méthodes et les apprentissages clés d'un entrepreneur à succès. Pour ne pas rater les prochaines, inscrivez-vous gratuitement sur www.entreprendredanslamode.com. Enfin, si vous souhaitez sponsoriser ou co-créer du contenu avec Entreprendre dans la mode, c'est possible. Là encore, rendez-vous sur le site web du podcast. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode, qui est aujourd'hui plutôt entreprendre dans l'hospitality, dans l'hôtellerie, dans la restauration, je sais pas. On verra à la fin de cet épisode comment on pourra intituler le titre du podcast. Mais en tout cas, aujourd'hui, pour la toute première fois d'Entreprendre dans la mode, je suis avec une hôtelière. Elle s'appelle Charlotte Gomez de Orozco, ou de Orozco. Et c'est la fondatrice de l'hôtel Oi. Salut Charlotte.
Salut, merci beaucoup de me recevoir.
Ma première question, c'est est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît?
Oui, alors je m'appelle Charlotte Gomez Orozco, je suis franco-mexicaine, j'ai 27 ans et je travaille dans le monde de l'hôtellerie et de la restauration et j'ai ouvert l'hôtel Oi au mois de janvier de cette année.
Très bien, très très bon timing.
Meilleur timing.
Deuxième question, c'est vrai que bon, on est en 2020, donc année du Covid-19, hein, pour ceux qui écouteront cet épisode dans 5 ans. C'est pour ça que je fais une petite blague. Deuxième question, c'est est-ce que tu pourrais reprendre ton parcours depuis ta plus tendre enfance? Où est-ce que tu es né? Où est-ce que tu as grandi? Qu'est-ce qui t'a amené à devenir hôtelière et à ouvrir un hôtel si jeune?
Oui, alors j'ai grandi au Mexique jusqu'à mes 15 ans. J'ai un papa mexicain et une maman française. J'ai une histoire familiale déjà très ancrée dans l'hôtellerie et dans la restauration puisque mes grands-parents étaient hôteliers. Se sont rencontrés dans un hôtel.
Au Mexique?
Non, parce que c'est du côté
France.
De ma maman.
D'accord.
Donc ma grand-mère, du côté de ma mère, avait un hôtel. Elle a rencontré mon grand-père comme ça. Les deux ont ensuite créé leur business à Paris. Ensuite, ma maman, qui travaillait dans des hôtels, a rencontré mon père qui voyageait, qui lui était mexicain. Et donc du coup voilà, je suis vraiment issue d'une famille d'hôteliers. J'ai vécu au Mexique et à 15 ans on a emménagé en France avec mes sœurs et ma mère. Et j'ai fait une école hôtelière. J'ai toujours adoré organiser les soirées, les teufs avec des copains. Et en fait ça a été assez naturel pour moi de faire une école hôtelière. Que j'ai fait en Suisse.
D'accord.
Et que
la
j'ai
fameuse.
Fini la fameuse école hôtelière de Lausanne.
Ouais.
Et ensuite, je l'ai fini en 2015. De manière assez naturelle ou pas, enfin surtout poussée par ma mère. En fait, il y avait un local qui se libérait à côté d'un des hôtels de ma famille. Ma mère m'a proposé en fait de faire de monter un projet, quelque chose. Donc à l'époque, je réalisais pas vraiment l'ampleur de ce que ça pouvait représenter d'ouvrir un restaurant ou un bar ou peu importe, mais j'avais beaucoup de copains qui se lançaient à l'époque et du coup ça m'a donné un peu de force et je me suis dit bon bah si eux ils y arrivent, moi aussi je vais y arriver. Et donc du coup, j'ai ouvert le Gizou, qui est un bar à vin et un bar à tapas, que j'ai appelé Gizou parce que c'était le nom de ma grand-mère.
D'accord.
Qui s'appelle Gisèle. Et c'était en fait le premier hôtel qu'ils avaient acheté avec mon grand-père à l'époque à Montmartre. Et donc du coup ça m'a semblé logique de faire un peu de faire ce lieu qui porterait son nom un peu en sa mémoire. C'était une très bonne française, voilà, donc elle est de Haute-Savoie et donc c'était beaucoup des produits de la charcuterie, du fromage, des bons verres de vin, et des conversations très longues avec leurs copains, leurs copines. Donc voilà, ça m'a semblé logique de faire ça à cette période-là. Et ensuite, au bout de 2-3 ans, ma maman m'a proposé de m'associer avec elle pour faire un hôtel parce qu'on vendait un de nos hôtels à Paris, il fallait réinvestir assez rapidement. Et donc elle m'a dit, écoute, est-ce que ça te dit, on fait un truc ensemble. Donc à l'époque, on avait plusieurs choix, donc c'était soit acheter un hôtel qui venait d'être fait par un fonds d'investissement et donc on était purement exploitant, ou alors partir sur une déco, une archi un peu connue et puis mettre toute la com dessus, ou alors faire un hôtel un peu concept qui moi était ce que j'avais déjà dans la tête à l'époque, mais évidemment bon, quand ouvrir un hôtel c'est complètement différent d'ouvrir un bar. Mais j'ai proposé du coup cette idée d'hôtel à ma maman qui serait en fait un hôtel orienté et tourné autour du yoga. Et donc, du coup, je lui ai pitché un peu ce concept et elle a accepté. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée à gérer, plus ou moins au début, en co-création avec ma mère. Et puis finalement, elle m'a dit « Je comprends rien au yoga, fais-le toute seule.
» Ah, le truc, ouais.
Et voilà.
Très bien. Moi, j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu en arrière. L'école hôtelière de Lausanne, qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu as appris? S'il y a des aspirants hôteliers qui nous écoutent, tu conseilles pas? Qu'est-ce que tu ferais différemment dans ce parcours?
Alors, c'est une très belle école. Mmh. Pour moi, ça a été un vrai moyen de confirmer la passion que j'avais. C'est une école ultra formatrice dans le sens où on propose plusieurs stages pratiques. Et en fait, je trouve qu'il n'y a rien de plus important que la pratique pour réellement être sur le terrain, parce qu'on a beau avoir des heures et des heures de cours, de théorie. Réellement, en fait, on ne sait jamais vraiment ce qu'est un vrai boulot tant qu'on n'est pas sur place. Mmh. Donc, moi, j'ai fait mes deux stages, un à Rome, à l'hôtel Hassler en service. Donc, j'ai fait les petits déjeuners, le restaurant gastro. J'ai vécu à Rome pendant 8 mois. Donc ça a vraiment été pour moi, on va dire, une révélation dans le bon et dans le mauvais sens. J'ai appris en fait à quel point c'était dur de bosser vraiment de 8h jusqu'à 20h, de faire des horaires un peu fous.
Mais tu bossais étant plus jeune chez tes parents?
J'avais jamais travaillé.
Non.
C'est-à-dire, je faisais de temps en temps des remplacements derrière la réception. Ouais. Les stages un peu obligatoires quand on a 16 ans, je disais que je les faisais, mais en fait on les faisait un peu, voilà, c'était ma mère qui me laissait, qui me donnait mes horaires. Donc j'avais jamais vraiment été contrainte à un travail en mode, bon, t'es obligée de rester, quoi, du début à la fin. Il y avait beaucoup de gens à l'école hôtelière qui font qui travaillent, qui font des extras, des choses comme ça. Moi, j'avais pas trop fait. Et donc du coup, ça a été un peu dur, surtout qu'on arrive dans un pays où je parle espagnol, mais l'italien, c'est quand même une langue relativement différente. Donc du coup, je me suis vraiment retrouvée à devoir et apprendre la langue et devoir être en mode en service. Et du coup, vraiment, on s'expose, quoi, parce que on est vraiment face au client. Donc il faut connaître les produits, il faut connaître le protocole de service, etc. Donc j'avais le commerce dans la peau, on va dire. J'aimais le contact avec le client, mais il y a eu beaucoup de choses. Donc pendant les 2-3 premiers mois, j'ai eu envie de mourir, de repartir. Et en fait, une fois qu'on se prête au jeu, c'est un peu comme une danse, c'est un peu comme un flow que je retrouve aujourd'hui dans le yoga. Et en fait, je me fais complètement emporter par ce premier stage que j'ai adoré. Le deuxième que j'ai fait en finance au Mexique, pour un peu comprendre globalement comment la partie financière se passe derrière, le financement, les RH, les factures, voilà. Mais ouais, c'est une école que j'ai adorée parce que j'ai rencontré mes meilleurs copains d'aujourd'hui, qui sont globalement tous des entrepreneurs. Pas tous dans l'hôtellerie et la restauration, mais plutôt des gens qui ont envie de faire des choses. Le network, c'est quelque chose d'incroyable. C'est aussi 4 ans dans la Suisse profonde, donc ça a été très calme. Et à la fois, on pouvait du coup être tous vraiment ensemble. Des professeurs qui sont très bien formés et qui nous transmettent tous les jours vraiment leur passion. Et puis surtout beaucoup de teuf, voilà, beaucoup de teuf. Mais
c'est vrai que les hôteliers sont connus pour être des gros fêtards quand même, hein.
Ouais, non, vraiment. Et puis surtout la passion pour la nourriture, pour les bons produits est vraiment née là. Et donc du coup, ouais, j'ai adoré cette école et je la recommande tous les jours aujourd'hui à chaque fois que des gens m'appellent pour me dire, alors ton école, tu la recommandes, mais 1000 fois, quoi. Si on a l'occasion de le faire, il faut.
T'avais des héros hôteliers, je sais pas si on peut dire ça, mais est-ce que t'avais en plus de tes grands-parents, de tes parents, etc., est-ce que dans le monde de l'hôtellerie, tu trouves qu'il y a des choses qui se font, qui sont hyper cool et qui t'ont vachement inspiré pour l'hôtel? Oui.
Alors, c'est drôle parce que quand j'étais petite, je me souviens d'avoir dit à ma mère à l'époque, je ne sais pas pourquoi, c'était vraiment ça qui était ancré, c'est pourtant pas les plus grands. J'avais le groupe Hilton qui était vraiment marqué. Donc, à l'époque, je me disais, oui, je vais en faire pareil que 50, 60. Ma mère, à l'époque, elle rigolait, elle se disait, elle ne s'imagine pas du tout le travail que c'est d'ouvrir 60 hôtels. Donc, ça, c'était vraiment à l'époque. Après, dans ma carrière, j'ai eu comme des phases, donc parfois beaucoup plus inspirée par des grands palaces et par ce sens du détail et du service qui pour moi est impressionnant parce que je sais le travail que ça demande derrière, en termes de philosophie des employés qui bossent pour toi, en termes du détail, du coût, de la commercialisation. Donc j'ai vraiment été attirée par par ce sens du détail des palaces. Ensuite, il y a eu évidemment les Soho House qui ont ouvert, qui réinventaient complètement ce côté hôtel en transformant un peu ça en membership, en espèce de club un peu privé. Après, évidemment, il y a le groupe Accor, mais ils sont bons parce qu'ils sont beaucoup, il y a beaucoup d'hôtels et puis beaucoup de catégories d'hôtels différents. Donc on va dire que je suis aujourd'hui, si je dois faire le topo sur les hôtels que j'adore, il y a eu évidemment les gros parce qu'ils sont en termes de développement incroyables, les palaces en termes de service, et il y a tous ces nouveaux hôtels qui se créent, qui sont vraiment concept, comme le Mama Shelter en son époque, comme le Soho House en son époque, et aujourd'hui il y a tous ces micro hôtels qui s'ouvrent en termes qui sont ultra éco-responsables, que moi j'adore, que j'ai beaucoup, que je vois beaucoup quand je voyage, typiquement à Bali ou au Mexique, là où je suis originaire. C'est des hôtels qui respectent l'environnement dans lequel ils sont créés. Et donc c'était très drôle parce que pendant longtemps à Tulum, c'était les hôtels les plus chers qu'on trouvait, je sais pas, 900 euros la nuit. Il y avait un lit, une couette, quoi. Et donc et en fait aujourd'hui on voit vraiment cette vision un peu du côté aussi client qui change, où tout le monde est prêt à payer 900 euros pour quelque chose de juste très simple, pour revenir à l'essentiel tant que le cadre est joli et tant que les détails sont là. Donc je suis on va dire admiratif de plusieurs, en fonction un peu de la catégorie, de plusieurs hôtels. Mais aujourd'hui, ce qui m'inspire, ouais, c'est, on va dire, les micro-hôtels. Moi, j'ai la chance de pouvoir travailler sur 22 chambres et donc de pouvoir un peu jouer et de pouvoir prendre des décisions comme mettre de l'eau plate filtrée dans les chambres, qui est quelque chose que quand on a 250 chambres à remplir, c'est pas tout à fait la même chose, quoi. Donc, je suis plutôt aujourd'hui sur des concepts hôteliers assez, assez petits où on a le contrôle sur tout et où on peut traiter, on va dire, l'atmosphère globale en tant qu'un peu un endroit un peu familial, quoi. Un endroit plus près du client.
Ouais. Quand vous avez commencé à bosser sur ce projet, raconte-nous, on commence par quoi quand on crée un hôtel ? Alors c'était un établissement qui existait déjà, donc tu pars pas d'une feuille blanche, mais c'était déjà un hôtel, quoi. Parce que il y a un truc dont je suis pas certain, c'est qu'il me semble que quand tu es à Paris, tu peux pas créer un hôtel, acheter un immeuble et créer un hôtel dedans. Il faut que tu rachètes un hôtel ou des chambres, un endroit pour faire un hôtel, quoi.
Exactement. Déjà, il y a rarement des immeubles vides. Globalement, il y a toujours des appartements, des choses comme ça. Donc, c'est compliqué si on veut. On peut demander les autorisations, mais il faudrait que, je sais pas, avoir que des gens très vieux qui sont en train de mourir et vendent leurs appartements. Globalement, c'est compliqué de trouver un immeuble vide où il y a des appartements. Nous, c'était un hôtel familial déjà, qui était en vente depuis 3-4 ans, mais les propriétaires avaient envie de vendre à une famille, enfin, ils n'avaient pas envie de vendre à un grand groupe. Il y avait une indemnité d'éviction assez élevée à payer, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont un peu démotivés, surtout l'hôtel était affreux. C'était vraiment, je pense, un hôtel qui en termes de normes avait été bien refait et bien adapté, mais c'était un hôtel vraiment très vieux, tenu par donc cette famille, et donc par quoi on commence? En fait, on a visité plusieurs hôtels avec ma mère, et quand on est arrivé dans cet hôtel, on va dire, parce que je fais du yoga assez connecté, on va dire, à mon intuition et aux choses que je sens, et je sais pas pourquoi je suis arrivée dans cet hôtel qui était vraiment, je pense, de loin le plus moche, mais j'ai aimé la rue, j'ai aimé ce quartier où j'ai grandi, à partir de mes 15 ans, enfin, mes grands-parents avaient des hôtels là.
On est dans le 9e rue des Martyrs.
Exactement. Donc, c'est un quartier dans lequel je me sens bien, et le lieu, même s'il était affreusement moche, avait une bonne vibe, quoi. Et donc, du coup, on a vu tout de suite le potentiel de pouvoir ouvrir une verrière. Alors globalement, en termes business, à une époque, on pouvait pas, enfin, c'était pas avantageux d'acheter un hôtel de moins de 40 chambres parce que sur le business plan, c'était minimum ça qu'il fallait pour gagner de l'argent, puisque c'était des hôtels bureaux, donc il y avait vraiment que l'hôtel qui générait un chiffre d'affaires. Et donc là, déjà, on prenait la décision d'acheter plutôt qu'un hôtel qui avait 40, on achetait un hôtel qui avait 30 chambres. Et en plus de ça, j'en enlevais 5 pour faire un studio de yoga. Donc ça a été un peu, pour ma mère, elle était un peu là, mais t'es sûre de ça? Comment tu vas faire? Et donc, évidemment, on a monté un business plan et puis j'ai réussi à lui montrer, mais globalement, je suis tombée amoureuse de l'énergie du lieu, du potentiel que ça avait. Ensuite, il y a toute la partie développement de projet, donc storytelling qu'il a fallu que je vende un peu à ma mère. L'idée, c'était de la vendre aux banques aussi, qui eux pensaient que yoga, ça voulait dire spa. Donc pendant longtemps, c'était « mais vous allez mettre une piscine ?» J'étais là « non, alors le yoga, c'est une pratique douce. » Donc, il y a toute la partie storytelling. Donc qu'est-ce que j'imaginais que le lieu soit? C'était un hôtel, moi, que je cherchais beaucoup quand je voyageais dans d'autres parties. Donc globalement, c'est tout un étage qui serait dédié à la pratique du yoga. Mais pas seulement, on fait aussi du sound healing, donc de la guérison à travers le son. Des ateliers d'aromathérapie et de sophrologie, donc de la méditation. Et en fait, ce serait donc travailler sur le bien-être du corps grâce au mouvement, grâce aux odeurs, grâce au son. Donc voilà, ensuite on aurait du coup 22 chambres, toutes pensées autour du bien-être. Donc pas de télé dans les chambres, mais des barres de danse. On propose aux gens des étirements le matin et le soir pour qu'ils ouais. puissent tout de suite se reconnecter au corps. Ouais. On a bossé aussi selon certaines lois du feng shui, donc une couleur assez, on va dire, bleu-gris sur les murs qui, instinctivement, au bout de 3-4 minutes, nous détendent, on se sent un peu comme chez soi. On travaille avec des naked shops, qui est, parce que j'avais tout un côté où j'avais envie de penser... on va dire la manière de gérer au quotidien les choses un peu différemment, donc je voulais moins de déchets, je voulais être un peu plus responsable et écologique, donc on a travaillé avec The Naked Shop qui est le premier magasin zéro déchet à Paris avec que des produits français, et puis surtout on travaille, on se réapprovisionne de manière éco-responsable. Une salle de soins où on fait en fait pas un spa normal et pas des massages traditionnels mais plutôt des soins holistiques, donc ça veut dire que ça prend en compte tout le corps, quoi. C'est vraiment aller chercher la cause de la cause. Donc, on a de la naturopathie, on a de l'aromathérapie, on fait de l'ostéopathie énergétique. Donc, on vient pas juste guérir quelque chose qui va pas dans le corps. On vient vraiment trouver la cause. Et donc, souvent, c'est quelque chose de un peu plus ancré dans nos têtes, dans peut-être des habitudes qu'on fait depuis longtemps qui sont pas bonnes, un trauma quand on était jeune. On fait aussi de la gynécologie holistique. Donc, le but était vraiment de proposer des soins un peu différents que les gens cherchent de plus en plus aujourd'hui. Mais ils ne savent pas vraiment où aller ni à qui parler. Ensuite, on a un fleuriste à l'entrée. Pour moi, c'était important de l'avoir là parce que c'était une vraie déconnexion. Je voulais que les gens, quand ils viennent chez Oi, c'est une vraie retraite au cœur de la ville. Et donc, pour partir en retraite, on a besoin d'être déconnecté à un moment donné. Et donc, pour moi, les fleurs et le côté végétal, c'est un truc qui est assez puissant en termes d'odeur, en termes d'énergie. C'est vraiment, ça nettoie. Enfin, un restaurant 100% base de plantes qui s'appelle Mesa, donc la table en espagnol, parce que du coup j'ai repris un peu mes origines mexicaines pour venir rendre le concept un peu plus masculin, parce qu'un hôtel yoga ça peut être quelque chose de très féminin au prime abord, et en fait je voulais que ce soit quelque chose de voilà, un peu un yin et un yang, quoi. Un côté oui féminin parce que yoga, parce qu'il y a beaucoup de femmes, et à la fois un côté un peu masculin qui serait ramené par mes racines mexicaines où tout de suite instinctivement on pense plutôt homme. Donc voilà, ça a été d'abord tout le storytelling, business plan, qu'est-ce qui rapporte de l'argent, qu'est-ce qui rapporte pas de l'argent, même si globalement mon but ça a jamais été de me faire des milliers d'essences, c'était plus de rendre ce projet
viable,
qui s'autofinance,
bien sûr,
globalement, et puis pour le reste avoir l'opportunité de rencontrer des thérapeutes, de faire une pratique de yoga et d'être dans un lieu dans lequel moi je me sente bien et dans lequel les employés qui viendraient bosser avec moi se sentiraient bien aussi. Et aujourd'hui, je trouve que quand on monte un business, peu importe lequel, c'est important de penser en amont, OK, comment vont se sentir les gens qui vont venir bosser pour moi ? Parce que globalement, Oi, c'est évidemment mon idée de départ. Mais aujourd'hui, il est incroyable parce que c'est toutes les personnes qui travaillent pour moi, qui partagent la même vision. Et la même passion pour le bien-être, pour faire des choses plus éco-responsables et pour changer un peu l'hôtellerie et la restauration du monde de demain, quoi.
Alors j'aimerais que tu nous expliques un petit peu avant qu'on creuse tout ça. Merci déjà pour cette présentation qui est très complète.
C'est un peu long, pardon.
Comment on fait du business dans l'hôtellerie ? Enfin, explique-nous dans les grandes lignes, à un newbie, à quelqu'un de nouveau, pardon, qui ne connaît pas ce métier-là, comment on gagne de l'argent ? Parce que instinctivement, on se dit, putain, le prix de l'immobilier à Paris, ça coûte une blinde. Comment on rentabilise le truc ? Est-ce que tu peux nous expliquer les grands principes ?
Alors, ouvrir un hôtel à Paris, déjà, c'est pas... Bon, aujourd'hui, on sait, dans l'hôtellerie, dans la restauration, on a des années où on rembourse les banques, l'emprunt à la banque. Donc, globalement, un hôtel... À l'époque, enfin ma mère, quand elle m'a montré par exemple les business plans, me dit oui, voilà, le plan de financement, c'est des remboursements quand même sur 20 ans.
C'est 20 ans un hôtel.
C'est 20 ans. Donc je sais que moi, quand je commençais l'école hôtelière, on venait de finir d'autofinancer un des hôtels que mes grands-parents avaient acheté. Donc c'est long. Ouais. Alors à l'époque, c'était des business un peu plus pérennes puisque. Des gros investissements et puis il y avait moins d'hôtels, moins de communication, enfin c'était vraiment pour avoir des clients, il fallait vraiment voilà les fidéliser, etc. Aujourd'hui on vit dans un monde qui est tellement connecté, où les choses changent tellement vite, où on est tous habitués à avoir un jour on aime vert, 3 ans après on aime rouge, et donc du coup les hôtels aujourd'hui je trouve vieillissent beaucoup plus vite parce que l'envie des gens est aussi beaucoup plus rapide. Donc aujourd'hui un plan de financement d'hôtel pour qu'il soit réellement viable, enfin moi je me voyais pas dire oui je le rembourserai dans 20 ans, enfin après il y a évidemment tu réinvestis toujours et tu changes un peu le truc, mais globalement aujourd'hui il faut pouvoir sur le plan de financement rembourser un hôtel autour de 12-15 ans, donc ça nous enlève déjà on va dire 5 ans. Donc il y a ça, mais comme à l'époque dans les restaurants où on remboursait en 8 ans ou 9 ans, aujourd'hui tous les 3-4 ans il faut globalement changer un peu le concept du lieu parce qu'il y a tellement d'endroits cool qui ouvrent, tellement de choses différentes qui ouvrent que c'est compliqué. D'ailleurs c'est une vraie question que je me pose puisque le Gizo a aujourd'hui 4 ans et donc c'est ok, on sent évidemment une pente croissante puisque c'est quelque chose de nouveau, la nouveauté attire toujours, après il y a une petite descente et globalement après il y a vraiment une stabilisation, mais il faut tout le temps être en train de réinvestir. Globalement, on gagne de l'argent vraiment au bout de 4-5 ans en restaurant. Et dans l'hôtel, bah, je vous dirais, mais globalement, on gagne de l'argent surtout dans les chambres. Parce qu'on a à peu près 25% de marge à la fin, contre un restaurant qui est entre 12 et 13. Et surtout, en fait, là, on gagne, en France, après, je ne sais pas dans d'autres pays, mais ce qui coûte très cher, c'est la masse salariale. Et en hôtellerie, globalement, il y a, je ne sais pas, pour 22 chambres, une femme de ménage, deux femmes de ménage, deux réceptionnistes, quoi. Basta. Alors que dans un restaurant, là, 40 places assises, ils sont quasiment 12. Donc c'est aussi, en tout cas, comme on gagne de l'argent aujourd'hui, quand on ouvre un hôtel-restaurant, c'est plus en enlevant un peu de marge. En fait, on gagne presque pas sur le resto, puisque ouvert 7 sur 7, beaucoup de masse salariale, surtout quand on a un restaurant qui a des bons produits, ça coûte aussi. En revanche, on vient un peu gratter sur la marge que prend l'hôtel et qui est un peu de 25%. Voilà, mais en revanche, c'est l'hôtel qui prend le gros loyer.
Ouais.
Mais on peut gagner. Enfin, c'est clairement des business qui sont où on gagne globalement de l'argent, mais c'est compliqué. Il faut tout le temps se réinventer. Il faut pas avoir peur de réinvestir.
Ouais.
Et c'est souvent ce que, enfin, en tout cas, les premières règles qu'on nous a apprises à l'école hôtelière, c'est le tout business qui n'évolue pas régresse. Et c'est vrai que souvent, là, par exemple, au bout de 4-5 ans avec le Gizou, on commence à peine à gagner de l'argent. Et à la fois, c'est maintenant que la machine à glaçons marche vraiment plus, que le frigo, il faut. Et donc, il faut pas avoir peur, je pense, de réinvestir à chaque fois, sachant que moi, en tout cas, dans ma famille, on bosse vraiment sur le patrimonial et sur les murs, sur le fonds de commerce. Donc, c'est pas des business en mode où t'as tout le temps 5000 balles qui arrivent sur ton compte. C'est plus en mode voilà. Et c'est pour ça que c'est des métiers de passion. Parce que c'est globalement ta vie tout le temps. Donc, t'es tout le temps là, derrière, à bosser, tout le temps à réinvestir. Donc ouais, c'est une vision un peu du travail différente. Il faut être passionné, quoi.
Ouais, ouais. Parce que t'as vu tes parents tout le temps dans le entre guillemets, le bouclard, quoi. T'es tout le temps au front.
Et encore que mes grands-parents ont vraiment bossé, enfin, c'était vraiment ma grand-mère et mon grand-père qui faisaient la réception, le petit déjeuner, les chambres. Ensuite, parce que je pense que la société a aussi un peu évolué, ma mère a repris, elle faisait vraiment purement l'administratif et un peu la réception. Et aujourd'hui, moi, je suis capable de, en tout cas, parce que c'est, je pense aussi, j'ai cette vision un peu plus jeune de la vie que j'ai envie d'avoir et de comment j'ai envie de gérer mes business. Et si j'ai envie d'évoluer, voilà la position qu'il faut que j'ai. Aujourd'hui, moi, je fais plus du tout de service. Pas, quand j'ai ouvert le Gizou, j'ai fait du service pendant 2 ans. Mais là, pour avoir un projet un peu plus grand et avoir une visibilité un peu plus, voilà, d'être un peu plus, de dézoomer un peu. J'ai besoin d'être en dehors de tout ça. Et donc aujourd'hui, c'est des choses que moi, si ma grand-mère m'avait vu ne pas faire la réception, ne pas faire la resto, elle m'aurait dit, mais comment tu contrôles, quoi? Et donc aujourd'hui, ouais, c'est, mais je pense qu'on évolue tous avec notre temps. Et c'est vrai que c'est des choses qui est un peu, ma mère est aussi un peu genre, mais t'es sûre que tu vas pas y aller? Je suis là, bah non. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'un vrai business qui tourne, enfin, en tout cas, si demain je vais en avoir 15 ou 20, il faut que j'arrive à être capable de dézoomer aujourd'hui et d'avoir le whole picture, the big picture, plutôt que juste, voilà, faire la réception et être derrière le bar, quoi. Sachant que j'ai des équipes géniales en plus qui gèrent parfaitement bien.
Ouais. Un hôtel comme ça, il faut qu'il soit, alors hors Covid, hein, quand tout va bien, etc. Le taux de remplissage, on doit être à combien pour être viable sur le long terme?
Globalement, il faut qu'on soit à peu près, là sur 22 chambres, il faut qu'on soit au moins à 50%. Au moins 50%, et il faut que le restaurant marche bien, que ce soit plein tout le temps. Globalement, mais c'est parce que c'est la masse salariale. C'est-à-dire que globalement, à partir du moment où on décide de faire, parce qu'il y a certains hôtels qui pensent, ou certains restaurants qui ouvrent, au début, ils se disent, OK, on va peut-être limiter la masse salariale, on va un peu tout limiter, parce qu'au début, ça va commencer doucement. Moi, j'ai une autre vision. Je me dis que au plus on fait, au plus on attire, au mieux c'est. Et donc, du coup, je typiquement, pour ça, j'ai pris j'ai pris tous les risques au début en me disant, voilà, j'ai envie d'investir le maximum aujourd'hui en termes de staff, en termes de tout ce que je peux investir pour le moment. Parce que comme ça, si on se prend une première vague, au moins, on se fera pas surprendre en mode, on a eu, 50 ou 60 personnes pour le brunch, j'en étais deux, quoi. Donc, c'est un peu une vision différente. Donc, c'est vrai que pour qu'un hôtel comme ça marche tout de suite, ouais, il faut vendre assez rapidement, tout de suite.
Ouais, il faut faire du
chiffre,
quoi.
Ouais.
Comment dire, une question que j'aime bien poser, c'est quand on achète un produit, d'une marque, parce qu'en général, moi, j'interview des gens dans la mode, tu vois. Mais quand on achète une nuitée ou chez Oi, qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce que ça veut dire de soi-même.
Je pense que quand on vient chez Oi, c'est qu'on a envie d'être dans un endroit qui nous ressemble, qui fait sens. Donc, globalement, les gens qu'on voit venir chez Oi, c'est des gens qui sont déjà un peu sensibilisés. Je dirais pas à la pratique du yoga, parce que c'est pas tous des yogis, mais on va dire c'est des gens qui ont envie de, d'être dans un endroit voilà, qui fait du sens. C'est-à-dire, ils viennent pour la partie bien-être, ils savent qu'ils vont bien manger, ils savent que les produits qu'on utilise sont, ont été recherchés, qui sont éco-responsables, écologiques. Ils viennent pour déconnecter de même s'ils viennent voyager et qu'ils sont touristes, pour vraiment déconnecter. Et globalement, ouais, je pense que c'est des gens qui sont de plus en plus ouverts juste au bien-être et au développement personnel. Et c'est exactement ce genre de personnes que moi j'ai envie d'avoir, sans que ce soit forcément des yogis ou peu importe. On a beaucoup de gens, même beaucoup d'entreprises qui nous envoient leurs employés. Parce qu'aujourd'hui, on a aussi envie de. Voilà, on fait voyager nos employés, certes, mais il y a aussi tout ce côté bien-être et prendre soin d'eux. Et aujourd'hui, ça passe par la pratique du yoga, ça passe par être dans des endroits qui, sans forcément te le mettre devant, on est éco-responsable, on est bon. On a des produits, en fait on le sent quoi, c'est plus dans l'ambiance et dans le look and feel de l'endroit.
Toute la partie yoga, toi t'es prof de yoga, c'est ça,
oui.
T'as fait une formation pour devenir prof.
Ouais, j'ai commencé le yoga il y a 5 ans ou 6 ans, et ça fait 2 ans que je suis professeure de yoga, donc je me suis formée à Bali, où je suis partie pendant 2 mois, et voilà, je suis devenue prof de yoga, donc globalement je faisais plutôt des cours à ma famille, à mes copains, et là maintenant en temps de Covid, je fais du coup des cours pour mes clients qui viennent et qui du coup, eux par exemple, prennent des city retreats, donc ils viennent un jour, deux jours, ils viennent petit déjeuner, faire un soin avec une de nos ostéos naturaux, faire un cours de yoga, et globalement ils viennent vraiment déconnecter pendant un jour, deux jours
dans la ville.
Exactement, dans la ville.
Trop bien. Et tout le reste, toutes les autres pratiques, tu fais appel à des professionnels, j'imagine.
Exactement, on a à peu près, quand le studio de yoga est ouvert, on a 42 professeurs, et on fait à peu près, on fait du yin yoga, on fait du vinyasa, on fait de l'hatha, donc on fait différents types, différentes pratiques de yoga.
Comment tu les as trouvés tous ces gens?
On bosse avec le studio de yoga Huge, qui a été créé par Hélène Duval. Et en fait, elle a vraiment ce concept qui est de faire du yoga dans le noir avec une lumière infrarouge. Cette lumière infrarouge, qui est une technique japonaise, vient vraiment détoxifier le muscle et enlever toutes les toxines qu'on peut accumuler. Donc c'est pas du Bikram, c'est plus du hot yoga, et donc du coup c'est globalement avec elle qu'on a fait le partenariat pour faire ce studio de yoga. C'était important de le faire avec elle parce que c'est un studio de yoga qui est très qui est implanté et qui est complètement parisien aujourd'hui. Et pour moi, je voulais pas ouvrir un studio de yoga que pour mes clients. Je voulais que ce soit un studio de yoga pour les parisiens, et globalement elle est là, en plus de ça, une école de formation où elle forme les profs à sa technique de yoga, qui est globalement une technique de service client plus que de pratique, puisque le vinyasa est une pratique où on a plusieurs postures et on peut faire plusieurs flows, donc c'est une pratique pour les professeurs assez libre, mais elle impose un certain standard, qui est ce que j'ai adoré d'elle. Elle impose un standard de pour les clients, c'est-à-dire quand on arrive, il y a la musique, il y a une odeur, quand les gens partent, ils ont leur petit massage dans le dos, dans les pieds, donc je m'y retrouve, moi, dans tout ce qui me passionne de l'hôtellerie, c'est vraiment le service client, quoi. Et c'est quand le client arrive, qu'est-ce qu'il voit, et en fait tout est pensé, tout est réfléchi pour que le parcours client soit maximisé et pour que la personne se sente le mieux possible, quoi.
Quand vous avez orchestré le lancement de Oi, l'ouverture, explique-moi comment vous avez orchestré le truc en termes de communication, d'acquisition client, etc. Parle-moi de tout ça.
Alors, on a commencé de manière. Je savais. En fait, j'ai vraiment été partagée parce que je voulais d'abord que ce soit quelque chose de très organique. Je voulais pas me voir placardée dans tous les journaux ou dans. Parce que je voulais que ce soit un truc finalement assez secret. Je pense, parce que ça découlait un peu de mon côté pas très sûr de moi, genre j'ai envie que personne ne voit ce que j'ai fait, j'ai peur que les gens jugent, mais à la fois j'avais juste envie que ce soit plutôt un endroit, parce que je sais que ça prend du temps de roder les équipes, de roder un concept comme ça, donc je voulais pas que ce soit trop placardé, donc et à la fois j'étais partagée par quand même un lieu qu'il fallait que je rentabilise assez rapidement au vu de mon choix stratégique que j'avais fait d'y aller full on depuis le début. Donc du coup, on a opté pour, je dis on parce que c'est une personne qui s'appelle Sabrina, qui est une personne qui m'a aidée beaucoup dans la décoration et que j'ai rencontrée vers la fin du projet et qui m'a vraiment épaulée sur, sur toute la vision que j'avais de Oi, et c'est vraiment elle, après 2 ans de bataille, parce que personne n'y croyait, qui m'a dit si, c'est comme ça qu'il faut faire, t'as raison, et puis je vais y aller avec toi, donc c'est cool. Et donc elle m'a présenté une de ses copines qui bossait dans une agence de presse qui s'appelle David Giroir, pas du tout spécialisée dans l'hôtellerie, dans la restauration, d'ailleurs spécialisée dans la mode. Et en fait, je les ai choisis parce que j'avais envie qu'ils me donnent un œil un peu différent et une manière de communiquer un peu différente, parce que je voulais pas être partout, parce que je voulais vraiment cibler les bonnes personnes. Et en fait, on a juste ouvert une page Instagram au début et on a communiqué sur le fait qu'on était le premier hôtel yoga de Paris. Et en fait, on était un peu en retard. Et à la fois, les travaux ont pris du retard. Donc, du coup, on a placardé vraiment devant notre hôtel yoga, fleuriste, restaurant 100% végétal. Et en fait, les gens ont été assez automatiquement, parce que c'est quand même une rue passante, rue des Martyrs, intéressés. Donc, on a eu beaucoup de messages de gens qui voilà, se posaient la question de savoir ce que ça allait être, etc. Donc, l'hôtel a mis un peu plus longtemps à être rempli, puisqu'il faut quand même toucher une cible un peu internationale. Mmh. Et donc, la presse est arrivée que plus tard. Mais ça a assez bien fonctionné parce qu'on a, dès le début, en fait, contacté, et ça, c'est grâce à mon agence de presse, 2-3 personnes que moi, je suivais beaucoup dans le monde de la food, qui sont venues 1 ou 2 fois et qui ensuite sont quasiment devenues, sont devenues des vrais clients qui venaient tout le temps et qui nous ont beaucoup aidés. Mais globalement, le restaurant a été connu grâce à Instagram.
Okay.
Donc aujourd'hui, beaucoup grâce à ça. Après, pendant le confinement...
Bouche à oreille, quoi.
Bouche à oreille. Pendant le confinement, on a eu en fait, pas mal d'articles qui sont sortis, donc personne ne pouvait vraiment venir. Mais au moins, les gens ont pris le temps de lire. Mmh. Et c'est tout aussi important, parce que aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui ont lu ou qui entendent parler de notre concept pendant le confinement et qui, du coup, aujourd'hui, sont là. Donc ouais, je pense que ça a été et à la fois organique et à la fois, on a eu la chance d'avoir des gens qui ont vraiment adhéré au concept et qui nous ont aidés à communiquer. Ouais. Mais ouais, je pense que c'est vraiment la puissance d'Instagram. Aujourd'hui, ouais. C'est incroyable, quoi.
Et tu sais, dans la mode, on parle beaucoup de direct to consumer. Est-ce qu'on peut parler de direct consumer aussi dans l'hôtellerie? J'imagine que tu passes par des plateformes sinon à un moment donné,
oui.
Ou pas du tout, ou tu es que en vente en direct?
Alors je voulais au début pas du tout, parce que quand on a pensé Oi, j'ai aussi voulu sortir un peu des codes de l'hôtellerie classique, donc par exemple pas d'étoiles. Ouais. Parce que j'ai réalisé qu'en fait, les étoiles, c'était peut-être le 5e ou le 6e critère que les gens regardaient quand ils réservaient.
Qu'est-ce qu'ils regardent, les gens, d'ailleurs?
Ils regardent d'abord le concept, ils regardent l'emplacement, ils regardent le prix. Ouais. Donc, ils regardent tout, sauf... Et puis ensuite, ils disent, fine, les étoiles, voilà. Mais,
Et comment t'as fixé tes prix, d'ailleurs, toi? C'est dur, je trouve, de se positionner.
Ouais, en fait, j'ai pris globalement la moyenne des prix à Paris, qui est en fait le prix moyen d'une chambre à Paris, c'est 180 euros de prix moyen, qui est déjà assez élevé, puisqu'en fait, globalement, on est toujours en train de. Et ça, c'était un truc qui me faisait peur aussi quand j'entendais ma mère. Elle me disait, c'est terrible, les hôteliers aujourd'hui, on est tous en train de se tirer vers le bas, parce qu'à force de vouloir absolument vendre notre chambre, comme il y a quand même beaucoup d'hôtels, et puis les fluctuations touristiques sont toujours assez importantes, puis on tire les prix vers le bas, c'est l'enfer, et donc du coup, on est tous obligés de s'aligner, parce qu'on a tous plus ou moins des concepts qui se ressemblent. Donc au moment de faire Oi, j'ai aussi fait Oi parce que j'avais pas envie de ressembler aux autres, j'avais envie de vraiment me mettre sur un marché de niche qui est le marché du yoga, mais à la fois je me disais ok, je sais que les gens qui font du yoga ils sont prêts à payer un tout petit peu plus cher, mais c'est un peu comme dans la mode, t'es prêt à payer un peu plus cher pour quelque chose qui est éco-responsable, que tu sais que tu vas pouvoir garder 4 ou 5 ans, qui même si c'est 120 euros et que le t-shirt fast fashion coûte 20, tu te dis ah non, je préfère investir 120 pour un truc qui a un plus de sens pour moi, dans lequel je vais me sentir mieux. Et puis aujourd'hui on porte des vêtements qui on pense nous ressemblent et on va aussi dans des endroits qui, on pense, nous ressemblent ou qui, en tout cas, ont un lien avec nous. Donc le prix, je l'ai fixé en fonction d'un prix que moi, j'aurais payé, du prix moyen un peu de Paris. Et donc, globalement, nos prix de chambre vont entre 180 et 220, sachant qu'au-delà, c'est plutôt des palaces. Donc, j'avais pas non plus envie que les gens soient déçus quand ils arrivent et qu'ils disent, je paye je passe 600 ou 700 euros et puis j'arrive dans une chambre où... Donc, j'ai un peu jaugé en fonction de mon instinct. Je me suis dit, voilà le prix que moi, je paierais. Globalement, ce que ça m'a coûté. Globalement, le nombre de chambres que j'ai besoin de vendre, le taux d'occupation, donc et finalement, ça se goupillait bien.
Et tu fais du yield management?
Alors, c'est drôle parce que quand je faisais de l'hôtellerie...
Est-ce que tu peux me dire c'est quoi le yield management? Parce que là, si on est sur-entreprendre dans la mode, je pense qu'il y a pas mal de gens qui savent pas ce que ça veut dire.
Ouais, alors le yield management, c'est en gros une stratégie tarifaire. Qui se met en place en fonction du taux d'occupation, en fonction de l'offre, de la demande. C'est en fait, pendant un moment donné, d'ailleurs, je suis étonnée de voir qu'il n'y a pas genre, des écoles qui soient spécialisées dans ça, ou peut-être que j'ai mal regardé, mais quand je faisais l'école hôtelière et qu'on avait eu ce cours de deal management, j'avais trouvé ça ça ultra intéressant parce qu'il y a des vraies formules à appliquer en termes de voilà, J-2, J-3, combien tu vends ta chambre, est-ce que, parce qu'en fait souvent les gens pensent que c'est juste aller et puis se caler sur le prix des autres. Il y a ça, mais il y a aussi être sûr de ton produit et il y a aussi plein d'autres choses un peu qui rentrent dans le contexte. Donc je fais du yield management pas trop scolaire. Si mon prof me voyait le faire, il me dirait Charlotte, t'as rien compris. Mais je pense qu'un vrai bon yielder aujourd'hui, c'est quelqu'un qui connaît bien son produit, qui a pas peur de le vendre. Parce qu'en fait, quand on est sûr de son produit, on arrive du coup à être beaucoup plus sûr sur le prix qu'on lance. Moi, je sais qu'à un moment donné, ma mère, elle me disait beaucoup, mais c'est terrible. Ma réceptionniste fait un yield affreux. En fait, c'est juste que quand on est une personne qui ne croit pas dans le produit, bah forcément, t'es toujours un peu, c'est genre comme si on te demandait de vendre, je sais pas, une pomme 120 euros. Si t'es fier de la pomme, tu la vends 120 euros sans problème parce que tu sais tous les bienfaits qu'elle t'apporte. Or, si t'es un peu là, putain, c'est une pomme quoi, 120 euros pour une pomme, c'est beaucoup. Du coup, t'es un peu moins sûr. Donc, le yield, je pense qu'il se fait en étant sûr de son produit. C'est-à-dire, ok, moi, je sais que ma chambre vaut ça parce qu'on est les seuls à Paris qui faisons ça et on a à côté de ça des kimonos dans les chambres, nos produits sont, je sais que les gens seront pas déçus. À la fois évidemment il faut regarder ce que font les autres, observer gentiment sans forcément copier, et puis voilà, faut franchement se fier un peu et puis connaître bien sa clientèle quoi. Savoir exactement à qui on peut vendre, quelles sont les entreprises qu'il faut cibler, quand une personne qui arrive je sais pas à 23h, à quel prix tu lui vends. Donc je pense que c'est beaucoup de feeling. Globalement, c'est un vrai métier humain quoi. C'est est-ce que tu arrives à bien, et c'est ma mère qui me disait que ma grand-mère était une vraie commerçante parce qu'elle était capable de vendre n'importe quelle chambre, à n'importe quel prix, à n'importe qui. Mes grands-pères m'ont raconté encore hier que elle était capable de faire dormir des clients dans une cave. Genre, mais si, c'est la meilleure cave de la Terre. Donc, globalement, il faut être un peu commerçant. Il faut croire en son produit. Et voilà, quoi.
Et pas s'excuser.
Parce qu'on bosse dur.
Ouais, c'est clair. Et puis, ton produit, il est cool, tu vois. Et c'est marrant parce que nous, on se dit ça aussi avec Réuni. Et à un moment donné, parfois, tu sais, tu rougis, tu dis, ouais, ah, putain, c'est un peu cher et tout. Mais en fait... En fait, notre produit, il est ouf et il est 10 fois mieux que plein d'autres gens.
Et c'est comme tu disais tout à l'heure, en fait, on se fait vraiment pas de cadeaux, quoi. C'est-à-dire, dans toi, le choix de tes produits, du sourcing. En fait, moi, c'est là où j'ai pas honte, c'est quand je vois le travail que je fournis. Après, évidemment, t'as toujours un peu tendance à l'oublier parce que c'est toujours dur quand tu le fais la première fois. Mais en fait, une fois que t'as passé un peu tous les caps difficiles, bah, finalement, tu te retrouves à faire des trucs qui sont, dans ton quotidien, donc facile. Donc, tu te dis, oui, est-ce que vraiment ça vaut? Et en fait, non, quoi. Moi, quand je me souviens la galère que ça a été de tout sourcer, l'extra mile que je suis en train de faire par rapport aux autres, je me dis non. En fait, si. Et aujourd'hui, par exemple, c'est une stratégie qu'on a adoptée typiquement. Mon agence de presse me disait, OK, on va inviter les influenceurs. Il faut que la presse, quand ils viennent, ils payent pas. Moi, ça me rendait folle. J'étais là, non, je peux pas promouvoir un hôtel où on revient un peu à la valeur des choses, où on remet au cœur. On remet au cœur de l'affaire parce qu'en fait pour moi tout ce que t'offres n'a aucune valeur. Donc moi je me dis, si la presse a envie de venir, c'est parce que réellement elle a envie de venir et parce que il va lui apporter quelque chose.
J'ai pas envie, deux fois plus.
Ouais, et j'ai pas envie que les... non mais c'est vrai, j'ai pas envie que les gens viennent genre en se disant fine, je vais encore le énième restaurant. Non, c'est si ça leur parle et s'ils ont envie de parler de nous, qu'ils viennent quoi. Et donc j'étais vraiment sur cette stratégie de zéro offert, parce que pour moi il y a tellement de travail investi derrière. Il y a des équipes qui sont là depuis 6h du matin. Notre chef qui est ultra créative, c'est du boulot quoi. Donc ça, pour ça vraiment j'étais intransigeante pendant longtemps. Après, quand c'est de l'échange de travail, je sais pas, par exemple ma photographe qui vient et qui me dit bah voilà, je te prends 1000 photos, est-ce qu'en échange tu peux me faire 2 nuits d'hôtel, fine, parce que là il y a un vrai échange de quelque chose. Mais c'est vrai que la gratuité, les choses comme ça, moi ça me c'est pas possible.
Et comment tu fais alors, parce qu'à un moment donné, pour avoir ces, parce que bon, t'as peut-être pas besoin des influenceurs et des journalistes pour remplir ton hôtel.
Tout le monde a payé.
Tu les as invités, mais ils ont payé.
Non, c'est-à-dire, en fait, ils nous contactaient directement.
D'accord.
Par exemple. Je sais pas, le très bel article qu'on a eu sur elle, en fait, la fille, celle qui nous a écrit, qui s'appelle Raphaël Marchal, est venue, elle a dormi à l'hôtel, elle a payé sa nuit d'hôtel, le lendemain elle a pris son petit déjeuner, et après elle m'a dit, ok, est-ce que je peux te voir, j'aimerais faire un article dessus, j'ai adoré l'hôtel. Et après, oui, quand on a déjeuné toutes les deux, je lui ai dit, fine, je t'invite le café, je t'invite le déjeuner, mais c'était pas en mode, je viens, tu me fais un offert, je fais un déjeuner presse, et voilà. Et globalement, les gens que je rencontre où on fait vraiment ça, c'est parce que soit c'est des copains de copains, soit c'est parce que c'est vraiment le destin qui les a mis devant moi, et parce que ça vient du cœur. Mais les influenceurs et les choses comme ça, malgré le fait que je sais que c'est beaucoup de boulot et qu'ils créent du contenu, etc., pour moi c'était plus voilà, s'ils ont envie de venir et parce qu'ils se sentent vraiment rattachés à ça, et qu'ils viennent quoi. Et aujourd'hui d'ailleurs, ça m'arrive que mon agence de presse me propose des gens en mode, oui, ce serait bien d'avoir lui ou elle. C'est finalement des gens qui in fine finissent par venir et par payer. Et pour moi, c'est important qu'ils viennent et qu'ils payent parce que ça a une valeur, quoi. Mmh. Et comme aujourd'hui, on décide de ne pas faire, par exemple, de formule brunch, non, c'est en fait les choses que tu commandes, les choses que tu manges, les choix que tu prends, il faut que tu les fasses en pleine conscience. Et j'ai envie qu'on arrête d'être dans cette société de surconsommer tout le temps, tout, mmh. parce que mmh. c'est la norme, parce que c'est normal, parce que c'est comme ça qu'on fait. Mmh. Et pour moi, c'est non, quand tu viens, voilà, c'est prends conscience de ce que tu manges, prends conscience de ce que tu mets sur toi, prends conscience de ce que tu dépenses et fais des choix, quoi. Mmh.
Et qu'est-ce qui fait que ces gens, ils ont été attirés, que ces cool people ont été attirés par Oi?
Je pense qu'ils ont été attirés par la proposition culinaire qu'on fait. Aujourd'hui, à Paris, il y a très peu d'endroits qui font du 100% à base de plantes. Et souvent, c'est soit du fast-food, soit des choses, on va dire, plus traditionnelles où on reprend un peu le burger sans dire que c'est vraiment un burger, mais on fait du Beyond Meat ou des choses comme ça. Et donc, je pense que ce qui intéresse des gens, c'est... Bon, aujourd'hui, tout le monde est friand des nouveautés. Donc, je pense que dès qu'on ouvre quelque chose, de toute façon, il y a des gens qui vont venir tester. Là, aujourd'hui, j'étais avec une personne qui écrit un article sur Oi et elle me disait... En fait, je lui posais la question de savoir quels étaient ses restaurants préférés. Et elle me disait, j'en ai plein, enfin, je vais rarement deux fois dans le même endroit. Donc quand t'entends ça, tu te dis, ok, un, c'est qu'il y a beaucoup de restos qui ouvrent, et deux, c'est que globalement, on est toujours en train de chercher un truc différent. Donc je pense que d'abord, ça a été la nouveauté. Deux, c'est vraiment cette proposition où, en fait, on fait pas seulement de la nourriture, je parle pour Messa parce que c'est vraiment ça qui nous a lancé au début. Tout ce qu'il y a dans l'assiette est là pour une raison. Donc par exemple, on va pas mettre dans nos pancakes le matin du sirop d'érable, on met du sirop de diacone, qui est un tubercule, et donc il aide à être beaucoup moins sucré, et on évite le pic d'insuline qu'on a dans le corps, dans le sang. On met par exemple aussi, on mélange la CBD dans nos desserts très à base de cacao. Oui, je parle que de dessert parce que je suis une tarée de dessert. Mais globalement, voilà, il y a le cacao qui fait que ça augmente tout de suite dans le sang, et ensuite la CBD qui vient ralentir. Donc il y a aussi tout ce côté food as medicine, donc tout comme Oi, en fait chaque détail est là pour une raison, et je pense que c'est un peu ce qui attire les gens, déjà d'avoir un hôtel yoga. C'est vrai que le yoga est plutôt quelque chose qui est assez à la mode dans les dernières années, mais personne n'avait fait, tout le monde fait une salle de yoga, et c'est un peu dans le basement, là où personne n'a envie d'être. Et là, le fait d'avoir vraiment mis ça au cœur de l'endroit, plus d'ajouter un fleuriste, une thérapeute, je pense que c'est ce mélange de plein de choses, et je pense que c'est aussi le fait que les gens aujourd'hui de plus en plus sont attirés juste par le bien-être, par le bien-vivre, et par toutes ces thérapies, toutes ces choses un peu holistiques. Je pense que ça attire de plus en plus, donc sans attirer tous les Parisiens, je pense que j'attire, et c'est un peu ce que je me suis dit à l'époque où je me suis dit je fais un hôtel yoga, je suis sûre qu'il y a au moins 22 yogis qui atterrissent à Paris tous les jours, et j'ai pas besoin de plus, en fait. Ouais. Et au restaurant, j'ai pas besoin de plus de 30 personnes par jour. Enfin, il y a globalement un moment où...
Oui, quand tu fais tes calculs, c'est pas non plus impossible, quoi.
Non. Donc je me suis dit, je sais que je suis pas en train de toucher une cible McDo ou Bouillon Pigalle qui globalement touche 100% des Français. Je me dis, c'est pas grave, je vais toucher peut-être le 1%, mais ce sera le 1% de gens qui sont déjà un peu dans cette lignée de, ou en tout cas, par exemple, moi je vois des filles qui viennent avec leur maman, qui sont de base pas du tout là-dessus. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu le rendre le plus accessible possible, parce que je me disais, j'ai envie que moi, quand je voyageais, que je cherchais un hôtel comme ça, si demain je disais à mon mec, je t'emmène dans un hôtel yoga, il m'aurait dit, mais t'es folle, quoi. Non, pourquoi tu nous imposes? Parce qu'il faut pas non plus imposer. C'est parce que nous on le fait et qu'on trouve que c'est bien, que les autres doivent le faire forcément, mais du coup j'avais envie que ce soit quand même le plus accessible possible, d'où le fait qu'on vend pas notre restaurant comme un endroit vegan, plus à quelque chose à base de plantes, que c'est pas que un hôtel yoga, mais c'est aussi un lieu de vie, où on fait aussi des ateliers, des talks. Donc en fait c'était plus, voilà, comment est-ce qu'on arrive en fait à toucher globalement le plus de personnes possible, tout en laissant les gens venir tranquillement tout seuls, parce qu'à un moment donné, le bien-être, ça nous touche tous, quoi. On a tous envie d'être en bonne santé, on a tous envie d'être bien dans notre corps, dans notre tête, et donc
dans nos baskets. Comment on devient une institution? T'as dû réfléchir à ce sujet-là.
Franchement, c'est drôle parce que c'est vraiment une question que je me pose surtout en ce moment avec Jizou et avec Oi, où je me dis pour le moment ça marche, puis ça fait même pas un an qu'on est ouvert. Je me dis, comment est-ce qu'on arrive à être à devenir un peu pionnier d'une idée et à la fois de durer dans le temps, sans avoir vraiment la réponse pour le moment, puisque j'apprends. Je pense que c'est globalement de la constance. Il faut être constant dans tout ce qu'on fait. Il faut jamais se reposer sur ses lauriers, se dire fine, ça marche. C'est toujours être en train de s'en mettre en question, toujours être en train de réinvestir dans le beau, dans le vrai, et mettre les investissements dans les bons endroits.
Les bons endroits?
Le staff, par exemple, avoir toujours un staff incroyable.
Comment tu les engages? Enfin, comment tu les fédères plutôt. Enfin, comment tu les emmènes avec toi.
Globalement, au début, je pitch. Je pose des questions sur eux, leur vision de l'hôtellerie de demain. Et globalement, avec ça, j'arrive plus ou moins à savoir si ça va correspondre ou pas. Et après, en fait, eux, qui sont vachement là-dedans, en parlent avec leurs copains, Et en fait, aujourd'hui, au début, c'était la galère de trouver du monde. Et en fait, aujourd'hui, on a des CV qui nous sont envoyés tous les jours parce que les gens cherchent, et surtout les jeunes, cherchent de plus en plus une vraie raison. Ils cherchent vraiment un reason why. Ils cherchent vraiment un endroit qui leur ressemble, qui a du sens, où ils peuvent se dire, aujourd'hui, j'ai plein de copines qui décident de gagner deux fois moins cher, mais parce qu'elles sont dans une entreprise qui fait du sens. Ou le soir, quand elles en parlent avec leurs potes, elles sont là, ouais, en fait, on est en train de changer le monde. À notre échelle, mais on est en train de changer le monde.
T'as l'impression de changer le monde, toi ?
Ouais, j'ai l'impression.
Ouais.
Ouais, en tout cas, après le confinement, j'ai l'impression que ouais, tous les détails qu'on a, toutes les choses pour lesquelles on se bat tous les jours, ouais, j'ai l'impression, même dans mon mode de vie global, quoi. Quand je vois aujourd'hui que je suis quasiment, je dirais pas zéro déchet, mais que j'ai complètement arrêté d'acheter du plastique pour mes produits de beauté, je me dis, ok, en fait, toutes les choses que j'évite, c'est des choses toutes bêtes, c'est des tout petits détails, mais ici, on dit que les petites choses faites différemment tous les jours peuvent tout changer. Et que globalement, on pense toujours que c'est pas nous qui faisons la différence, et je pense que oui. Donc évidemment que l'hôtel aurait pu être 150 000 fois plus écologique, plus éco-responsable. J'ai fait avec l'expérience que j'avais, avec les gens qui m'entouraient à l'époque. J'ai fait les meilleures décisions. Enfin, en tout cas, j'ai fait du mieux que je pouvais au moment où il fallait prendre des bonnes décisions. Mais globalement, aujourd'hui, je sais qu'il y a des petites choses qu'on fait qui sont en train de changer. Je pense que si tout le monde faisait comme ça, le monde, globalement, irait beaucoup mieux. Donc, c'est aussi, un starting point pour prouver aux gens que, voilà, on n'est pas obligé d'être zéro déchet. Mais déjà, peut-être arrête d'acheter les bouteilles en plastique, par exemple, ou arrête, achète plutôt des produits solides. Et donc, c'est aussi pour ça que Oi et que j'ai créé Oi, c'est pour pouvoir faire des talks dessus et pour pouvoir motiver les gens à se dire, OK, on n'est pas obligé d'être parfait. C'est juste, si tu fais 1%, c'est déjà bien.
C'est marrant, tu fais des talks avec qui, avec quoi, sur quel sujet?
Alors les talks qu'on fait en ce moment, c'est un talk un peu plus féminin, mais du coup ça vient toujours vous impacter. On va développer et c'est à partir de la semaine prochaine des talks autour de la sexualité. Pour moi, c'est un sujet important parce qu'aujourd'hui, évidemment, nous on fait des thérapies assez holistiques et en fait on traite le corps humain, et bon, là en l'occurrence le corps de la femme, mais c'est aussi le corps de l'homme parce qu'on est directement lié. Et en fait, l'idée, c'est d'apprendre à se reconnecter à son corps, à ses émotions, à son ventre. C'est comment se sentir. Aujourd'hui, on est dans une génération dans laquelle, bon, nous les femmes, on a toujours été très cycliques, on est globalement assez déconnectés de notre corps parce que toujours comparé à des corps mieux, à des corps qui ne sont pas vraiment les nôtres, qui ne sont pas vraiment la réalité, on a des problèmes d'ovaires polykystiques, on a l'endométriose, on a quand même globalement des nouvelles maladies qui sont des problèmes de thyroïde. Et en fait, tout ça, c'est lié aussi au mental, au cerveau, à ce qu'on mange. Donc en fait, c'était important pour moi de mettre la sexualité sur la table un peu pour en parler sans tabou. On a beaucoup de femmes aujourd'hui à avoir à être déconnectées de notre corps, et donc c'est comment on se reconnecte, et c'est grâce à des exercices de respiration, grâce à des mouvements du bassin, grâce à une vraie communication avec notre partenaire. Donc c'est un peu bizarre de parler de ça en France parce que les gens sont souvent un peu bloqués, moi la première, hein, parce que je suis quand même moitié française, donc parfois je me dis est-ce que j'oserais, et puis en fait aujourd'hui je me dis non, je sais pas, je suis mon instinct et c'est quelque chose qui me parle. Donc on fait pas mal de talks sur ça. On est en train d'organiser aussi un talk avec la maison du zéro déchet où j'aimerais qu'il y ait des gens qui viennent et qui disent et qui nous expliquent ça, qui nous expliquent voilà les chiffres qu'on a aujourd'hui, ça sert à rien de s'angoisser, voilà ce qu'on peut faire, et sans être en train de vouloir être 100%, c'est voilà à 30%, voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on a aujourd'hui à notre disposition. Et donc voilà, après on a aussi des ateliers où on fait notre confection de fleurs de Bac. Donc c'est assez intuitivement, on vient choisir, faire une sélection de fleurs de Bac, et ensuite on réalise en fait, une fois qu'on a l'analyse des fleurs de Bac qu'on a choisies, que c'est en fait exactement celle dont on a besoin. Et donc c'est aussi le développement de l'intuition, c'est-à-dire, et de l'instinct. Et donc voilà, globalement c'est autour de qui on est nous en tant que corps, comment est-ce qu'on interagit avec ce qui se passe, le stress du monde d'aujourd'hui, nos boulots, à quel point on est déconnecté ou reconnecté, et à quel point on peut se retrouver.
Comment tu gardes le lien avec tes clients? Vous avez, je pense à la newsletter. Comment tu communiques avec elle? Comment tu fais en sorte que les gens reviennent chez toi?
On fait beaucoup de communication sur Instagram. Ouais. On fait du gros mailing au cas par cas sur avec nos clients qui viennent à l'hôtel, qui nous laissent le mail. On ne fait pas encore de newsletter. Pour le moment, ouais, voilà, on va dire c'est grosso modo Instagram, mail. On fait pas mal d'IGTV, donc franchement, c'est beaucoup Instagram. C'est beaucoup Instagram et le site internet.
Et tu as un taux de retour client, enfin de retour client de où les gens reviennent régulièrement,
de
etc. De fidélité.
Ouais, 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 franchement, de plus en plus, et ça fait plaisir dans un monde où les gens zappent assez rapidement. Non, on a beaucoup de clients qui reviennent, beaucoup de mais parce que je pense que les gens se sentent bien, et donc sans vouloir être un hôtel parfait à 100%, on essaye en tout cas en termes de staff de faire beaucoup de fidélisation. C'est-à-dire que nous, on fait un vrai travail en amont sur les gens qui viennent nous voir. On les check sur Google, sur Instagram. On essaie de se connecter avant même qu'ils soient arrivés. Et pour moi, c'est important, sans que ça soit un peu bizarre, ouais, ou que ça fasse un peu peur. Mais ouais, on essaye de parce que pour moi, c'est important qu'on a 22 chambres. C'est-à-dire qu'on peut le faire. On peut connaître par cœur tous nos clients. Et on a une grosse communication en interne pour qu'on se passe les mots sur les habitudes, sur les choses comme ça. Et je pense que c'est ça qui fait que les gens reviennent. On a tous envie d'aller dans le bar dans lequel le serveur nous reconnaît, quoi. Parce que c'est important, et parce que je pense que les gens cherchent la connexion humaine globalement.
C'est quoi la suite des événements pour toi? J'ai l'impression que tu as envie d'ouvrir d'autres hôtels. Oui.
Oui.
De ouf.
Oui, de ouf. Ouais, j'aimerais.
Genre partout dans le monde, c'est quoi?
Non, pas partout dans le monde, je dirais. Globalement, ce serait plutôt en zone urbaine. Donc plutôt dans les villes.
Il y a de la place à Paris pour plusieurs Oi?
Je pense qu'il y a la place à Paris pour plusieurs Oi. J'aimerais déjà clôturer, on va dire, un bilan d'une année normale, voilà, sans grève, sans Covid, sans tout ça. Mais ouais, globalement, j'aimerais importer ce concept toujours en le gardant petit à échelle humaine, donc toujours autour de 20-30 chambres. J'ai une équipe déjà avec laquelle j'adore bosser, donc je sais que je vais pouvoir un peu la déplacer. Mais ouais, Amsterdam, Berlin, rester d'abord en Europe. Et ensuite, pourquoi pas l'importer au Mexique, en fait, dans toutes les villes dans lesquelles on sait qu'on a besoin. Et je pense qu'il n'y a pas, en fait, d'endroit comme ça dans aucune ville, parce que j'en ai fait beaucoup. Et à chaque fois, je cherchais, ma recherche, c'était hôtel yoga. Et je n'ai jamais trouvé aucun hôtel yoga nulle part, à part, évidemment, à Bali ou au Maroc, quoi, où c'est des retraites surf yoga. Mais il n'y a aucun hôtel yoga dans aucune ville. Globalement, il y a des hôtels qui proposent des cours de yoga, mais il n'y a pas un concept comme ça. Et je pense qu'il est nécessaire, parce que aujourd'hui, nous aussi, j'ai envie de promouvoir le slow travel. Donc c'est plus, je pense que de plus en plus, c'est bien de partir loin une fois, deux fois, mais je pense que c'est aussi bien de rester dans la ville dans laquelle on est, ou dans le pays dans lequel on est, de voyager, de prendre le temps, en fait, de voir les choses qui sont importantes dans la ville dans laquelle on est. Il y a tellement de choses. Moi, c'était le premier été, et Dieu sait que ça fait quand même 10 ans que j'habite à Paris, où je reste en France, et j'ai découvert des choses incroyables. Et en fait, je pense que les gens prennent pas le temps, parce qu'on est toujours comme pressé, on a toujours peur de louper quelque chose. Et dès qu'on voit quelqu'un part à Toulouse, c'est il faut tous partir à Toulouse. Il faut tous partir au Portugal. Il faut tous partir. Et en fait, réellement, on a déjà tout ce dont nous avons besoin ici. Et on est quand même en France, dans un pays incroyable. Et donc, du coup, cet hôtel, il est aussi créé pour promouvoir le slow travel. Donc, ça veut dire que t'as pas besoin d'aller en Espagne pour aller en retraite de yoga. Et je pense que c'est aussi dans la mentalité des gens qu'il faut que ça change. T'as pas besoin d'aller loin, en fait, pour être bien. Tu peux être partout en France et venir à Paris. Tu prends ta voiture, tu viens. Tu peux être à Paris sans avoir besoin de prendre la voiture pour aller à 3 heures de Paris. En fait, il y a déjà tout qui est là, quoi. Donc, je sais que ça change un peu les mœurs globales de la manière de voyager, parce que les gens se disent toujours qu'ils ont besoin de partir pour s'évader, pour déconnecter. Et moi, j'ai envie de leur prouver qu'on peut le faire en restant dans sa ville sans avoir besoin de bouger trop, quoi.
Toi, dans un monde idéal, tu voudrais avoir que des Parisiens dans ton hôtel?
J'aimerais avoir que des Français dans mon hôtel. Globalement, c'est un peu le challenge, évidemment, s'il y a des gens qui voyagent. D'ailleurs, oui, mais j'aimerais que ce soit un vrai lieu. J'aimerais remplir l'hôtel toutes les semaines, tout le temps, que de gens qui ont besoin de faire des pauses. Donc, des mamans qui le lundi soir vont laisser leur enfant avec leur mari ou avec la babysitter, elles viennent avec leur mari, et qu'elles viennent une nuit se déconnecter, prendre soin d'elles, faire une session d'ostéo, bien manger, faire du yoga, bosser toute la journée ici. J'aimerais avoir des copines qui viennent un week-end. Elles sont quatre, elles ne se sont pas retrouvées depuis longtemps. et en fait, c'est ou comment partir loin en restant près de chez soi, quoi. Mmh. Et je pense que c'est possible, donc ouais, ce serait un peu l'idéal. Mmh. Bosser aussi en collaboration avec, je sais pas, là on est en train d'organiser une retraite avec le Yoga Scope fin novembre, j'espère que ça pourra avoir lieu, où les filles elles viennent, et après on fait aussi des associations avec Oh My Cream pour que les filles elles aillent faire leur propre crème, on les emmène en taxi pour aller faire un cours de poterie. Mmh. Donc en fait il y a tellement de choses à Paris qui sont incroyables que personne ne connaît, et donc c'est mon job d'aller les chercher, de faire des expériences uniques où les filles elles se disent ok, en fait il y a plein de choses à faire à Paris, c'est trop cool et j'ai envie de faire l'expérience à 100%. Mmh. Quoi.
Tu l'aimes cette ville?
Ouais, j'adore.
Ouais.
Alors, je pensais avant le confinement être purement parisienne, de ne jamais pouvoir partir. J'ai eu la chance de faire le confinement en Corse, où j'ai pu du coup faire un peu mon potager, faire un peu de compost, etc. Mmh. Donc, ça a été pour moi une vraie reconnexion à la nature. Mmh. Donc, ça m'appelle de plus en plus. Mais ouais, je suis 100% parisienne. J'adore cette ville. Je trouve qu'elle est magnifique. Mmh. Et je trouve surtout qu'il y a une vraie explosion de bons concepts, de bons restos. Il y a de plus en plus de gens qui investissent et qui ont envie de faire bouger les choses, donc c'est motivant de savoir qu'on n'est pas les seuls.
T'es optimiste pour la suite des événements?
Bizarrement, alors qu'on nous annonce là bientôt, je sais pas, j'espère pas, la refermeture des restaurants, donc j'ai quand même fait deux ouvertures après même pas un mois et demi d'ouverture dans Oeil, mais je pense que, en tout cas j'ose espérer que les choses vont un peu changer, je crois en fait profondément que les choses elles arrivent pour une raison et que c'est un peu en train de, enfin moi je sais que j'ai, à titre personnel et dans la vie perso de mes copains, ça a fait bouger beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de gens qui se sont posé beaucoup de questions qui sont pour le mieux ou pour le moins bien, mais en tout cas ça a fait bouger quelque chose et je pense que c'est ce qu'on avait tous besoin et en tout cas moi aujourd'hui après ce confinement je trouve encore plus de raisons de faire un hôtel comme ça. Mmh. Et on a encore plus de demandes qu'avant le confinement, donc je sais que les gens sont de plus en plus intéressés par le bien-être, par tout ça, donc je suis un peu désemparée de tout ce qui se passe, mais je fais confiance à la vie.
C'est quoi le futur de l'hospitality d'après toi et du voyage globalement? J'ai l'impression que c'est la fin des longs courriers, enfin, je sais pas, des voyages à gogo. Comment tu vois la suite des événements?
Je pense que, enfin, en tout cas, moi,
les grandes tendances, quoi.
Moi, en tout cas, parce que je sais. Ma manière de réfléchir aujourd'hui, je pense pas qu'on peut interdire aux gens de voyager, ou ce serait un peu hypocrite de dire qu'on va tous arrêter de voyager et qu'on va partir que près. Je pense que c'est tout sur un choix conscient sur la conscience des choix qu'on prend. Donc éviter de faire un aller-retour au Mexique pour 2 jours ou pour 3 jours parce qu'on a absolument envie de partir, absolument envie de se déconnecter. Il y a d'autres moyens. Donc moi, je pense que je pense qu'il faut que les gens apprennent à faire les choses plus lentement, de manière plus consciente. Je pense que les gens, ils ont envie d'être dans des endroits qui leur ressemblent, qui ont un sens. Et globalement, juste mettre plus de conscience dans les choix qu'on prend. Voilà. Mmh. Être plus conscient quand on mange de la viande 5 fois par semaine, c'est, enfin, est-ce que genre j'ai vraiment besoin? Et en fait, réaliser que tous les petits changements qu'on fait ont un impact positif sur quelque chose.
Mmh. Voilà. Très bien. Est-ce que, parle-nous un petit peu de cette crise du Covid. Comment on affronte ça quand on vient d'ouvrir un hôtel? Enfin, c'est hyper violent, non? Comment ça se passe?
Ouais, globalement, on a 2 semaines de gros stress. Ouais. Parce qu'on se dit, on a un loyer, il faut qu'on rembourse. Comment je vais faire avec tout mon staff? Chômage partiel, pas chômage partiel. Donc, on a de la chance, parce que mon père est au Mexique et j'ai des copains qui ont du business là-bas où concrètement, tout le monde s'est retrouvé au chômage. Il n'y a pas eu d'aide du tout. Les pays pauvres ou un peu moins développés ont clairement suivi la crise d'une manière que je pense que personne ne peut l'imaginer. Aujourd'hui en France, on a quand même eu la chance d'avoir eu, en tout cas nous, tous nos loyers ont été décalés. Moi j'ai la chance quand même d'avoir une entreprise familiale où on a les murs et le fond, donc le loyer je le dois à ma mère, donc ça va pour le moment.
Ça se gère, ouais.
Mais ce qui est, je pense que ce qui est compliqué, et je pense que c'est compliqué pour tout le monde et dans tous les secteurs, c'est d'accepter qu'on n'a pas le contrôle de rien. Et que globalement, il faut qu'on fasse confiance au flot de la vie, aux choses un peu qui se passent. Non, mais c'est le plus dur, parce que moi, qui suis plutôt quelqu'un qui prévoit tout, qui suis toujours à fond, moi, j'étais repartie, j'étais sur mon paddle, j'étais en vitesse de croisière, tout allait bien, et tout à coup, on m'explique, ah non, il y a une grosse vague, ouais, là, il faut que tu te mettes sur les genoux, et puis il faut que tu t'assoies, il faut que tu patientes. Donc, je pense que, je pense qu'il faut qu'on soit tous, globalement, un peu patients. Moi, j'essaye de pas trop, je sais qu'on est plein dans cette situation, je sais qu'on a la chance d'être dans un gouvernement qui nous aide. avec plein de choses. Tout le monde est au chômage partiel. Mmh. Je fais un peu confiance à ce qui va se passer. De toute façon, on est tous dans le même bateau. Mmh. Et on va tous trouver des solutions. Et je pense juste qu'il faut qu'on reste unis dans tout. Et pas qu'on se dise, parce que là j'ai vu que quand même après le confinement c'était quasiment, on était tous en train de se battre pour les clients, c'est genre non, il y avait des clients pour tout le monde avant, il y aurait des clients pour tout le monde après, essayons d'être ensemble plutôt que de se séparer quoi. Et je pense qu'une crise comme ça, elle est aussi là de base pour nous séparer, parce que chacun pour soi, et puis trouver tous vos solutions tout seul. Et en fait aujourd'hui je pense que c'est une crise qui est censée être là pour nous regrouper. En tout cas moi j'ai senti dans mon staff une vraie réunion de tout mon staff, une vraie compréhension, enfin tout le monde, voilà. Donc il y a en tout cas pour moi deux manières de voir les choses, et je pense qu'il faut à la fois accepter de lâcher prise et se réunifier quoi, et être ensemble et trouver des solutions ensemble.
C'est qui tes concurrents frontaux
en termes d'hôtellerie? Il y en a plein, c'est-à-dire en tant qu'hôtel, là à côté on a le Grand Pigalle, on a l'Hôtel Amour, on a mais en termes yoga on en a pas vraiment. Voilà, on a le Soho House qui va sortir, mais pour moi c'est pas vraiment des concurrents, même s'ils sont vraiment la porte à côté. Pour moi le monde attire le monde, et donc c'est bien. Moi c'est des hôtels dans lesquels je vais d'ailleurs de temps en temps, et on s'envoie des clients, donc je pense que ouais, j'ai pas peur de la concurrence. Pour moi c'est plutôt une force. Parce que ça veut dire qu'il y a du marché, et deux, parce que ouais, le monde attire le monde. Et je pense que quand on fait les choses avec le cœur et quand on le fait pour les bonnes raisons, il y a des clients pour tout le monde quoi.
C'est qui l'ennemi commun?
Booking, Expedia.
Je les avais oubliés, ceux-là.
Mais à la fois ils nous aident, donc c'est un peu hypocrite de dire ça, mais non, je pense que l'ennemi commun c'est c'est les gens qui n'ont pas envie de faire partie de notre bande, d'une bande commune pour tous s'entraider. Je pense que ouais, si on reste solidaire dans les décisions qu'on prend et dans les prix qu'on impose et tout ça, je pense qu'il y a pas de on devrait tous être copains.
Mais d'ailleurs moi ça m'éclate, ça m'impressionne comment ils ont réussi à bouffer la laine sur le dos des hôteliers quoi. Je comprends pas.
Typiquement le Gizou qui est le bar que j'ai ouvert. Au tout début c'est assez compliqué parce que t'ouvres un lieu, bon moi j'ai la chance d'être rue Lepic donc c'est assez passant, mais globalement t'es un peu stressé parce que t'as envie de remplir tout de suite. Donc en fait il y a des plateformes qui se créent qui te donnent une espèce d'impulsion de visibilité qui au départ est énorme. Moi je sais qu'au début je remplissais beaucoup grâce à ça parce que c'était une plateforme qui proposait des bars, parce que globalement il y a 5-6 ans t'avais envie de fêter ton anniversaire, c'était toujours les potes, tu les appelais pour savoir s'il y avait pas un bar qui se louait ou un bar ou quelque chose. Et globalement cette plateforme elle a anticipé ce besoin, ou en tout cas elle a vraiment proposé un service qui n'existait pas. Et donc globalement nous on a quand même fait beaucoup de belles soirées grâce à ça. Après c'est à nous de fidéliser le client. C'est un peu le jeu qu'on joue aujourd'hui avec Booking Expedia, c'est ils arrivent probablement par là, et ensuite c'est notre rôle de leur expliquer que la prochaine fois il faut passer en direct. Donc il y a un peu cette espèce de course et cette espèce de truc de qui se vole des clients, mais globalement de base c'était quand même quelque chose pour nous aider, c'était quand même un service qui était nécessaire à l'époque pour nous aider à remplir. Après quand on a un hôtel qui est aussi niche que Hoy, on n'a pas vraiment besoin de ça. C'est-à-dire aujourd'hui, je sais que c'est du bouche à oreille, il y a quand même d'autres plateformes, mais au même titre, elles nous aident à la communication, des sites qui s'ouvrent pour les retraites urbaines. Donc, globalement, il faut qu'eux ne prennent pas trop de marge, que nous, on accepte de travailler avec eux aussi. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, un peu comme tout l'argent, tout le monde a envie de tirer la couette de son côté, quoi. Et c'est un peu ça qui est compliqué, mais comme dans tout. Comme quand on voit qu'il y a une affaire qui marche bien, au début on est tous un peu là, ouais, on sait pas trop, et puis dès que ça commence à gagner de l'argent, tout le monde veut sa part du gâteau, quoi. Donc ouais, je pense que c'est une question d'être juste, d'être équilibré, de savoir aussi pourquoi ils nous aident. C'est bien de leur donner aussi quelque chose, donc globalement, ouais, c'est de trouver l'équilibre, quoi.
Et ils prennent combien en général?
Entre 23 et 26%. C'est globalement mal, hein. Notre marge quoi. C'est un peu comme les Deliveroo et les Uber Eats qui prennent globalement la marge du restaurateur quoi. Et pourtant on a quand même besoin d'eux parce qu'il y a toute une logistique derrière qui a besoin, qui a été bossée par eux. Donc ouais, c'est des concessions, à la fois ça nous permet d'être plus visibles.
C'est de l'investissement marketing quoi.
Exactement. Et après tiens qu'à nous de fidéliser les clients quoi. Donc c'est aussi une porte d'entrée, et puis c'est à nous d'être bons derrière.
À quoi ressemblent tes journées? C'est une question rockstar.
Je fais toujours le matin un cours de yoga, suivi d'un exercice de respiration. En ce moment, je suis beaucoup dans du Wim Hof, qui est cet exercice d'hyperventilation développé par Wim Hof. Et on fait de la rétention d'air à la fin. Et en gros, ça aide à booster le système immunitaire. Ça aide contre la dépression, contre le stress. Et lui, il est appelé l'homme de glace, puisqu'ensuite, il est capable en fait, d'autoréguler la température de son corps en rentrant dans des bains glacés. Moi, c'est quelque chose que je pratique depuis à peu près 6 ou 7 mois. Donc, je fais du yoga, un peu d'exercice de respiration. Quand j'ai le temps, je prends un petit déj ou j'ai souvent un petit déj boulot que je fais globalement à l'hôtel. Ensuite, je fais, je sais pas, une journée globale, je vais faire un meeting avec une personne de mon staff, donc soit à l'hôtel, soit à la restauration, soit les ostéos, pour voir le planning des événements qui restent à venir, les entreprises qu'il faut qu'on aille démarcher. Ensuite à ça s'accompagne un déjeuner que je fais soit avec quelqu'un de ma famille, je suis très proche des gens de ma famille, donc avec ma sœur ou ma mère, j'ai besoin d'eux, c'est un vrai équilibre.
Ta sœur est dans le business de l'hôtellerie aussi?
Alors ma sœur, j'ai deux sœurs, une qui est dans le droit et l'autre qui fait aussi de l'hôtellerie, mais elle est encore jeune, elle a 22, donc elle est en train de chercher encore ce qu'elle veut faire. Globalement on fait un point sur les factures, un point finance que j'aime bien faire tous les jours, juste pour être bien sûr, je suis assez organisée là-dessus, donc j'aime bien me dire voilà ce qu'on va payer, voilà ce qui a été payé, voilà. Je suis toujours en train de brainstormer sur du contenu pour nos réseaux sociaux, donc quelles sont les pauses dont les gens ont besoin de faire, quels sont les tips dont les gens ont besoin. Donc ça, les réseaux sociaux, ça prend beaucoup de temps. Toute une stratégie aussi sur aller démarcher pas mal de prestataires pour les intégrer dans nos retraites. Donc c'est beaucoup de social, je suis toujours en train d'être avec des thérapeutes, de les chercher, de les intégrer, de voir comment est-ce qu'on peut les commercialiser, les vendre et comment est-ce qu'on peut rendre accessible le bien-être au plus grand nombre. Globalement, je fais des points avec mon staff, donc c'est quelque chose d'assez humain. Et je finis toujours par aller au Gisou, faire un point avec mon directeur qui s'occupe maintenant quasiment globalité de ça, et puis on recommence, c'est-à-dire quelles sont les réservations, quelles sont les choses qu'on doit changer, quels sont les produits qu'on vend le mieux, pourquoi est-ce qu'ils se vendent mieux, qu'est-ce qu'on change. Donc c'est globalement une remise en question perpétuelle sur comment est-ce qu'on peut faire mieux, quelles sont les choses qui marchent, quelles sont les choses qui doivent changer.
Et tu kiffes?
J'adore.
Ouais,
franchement, j'adore.
T'es heureuse de ta vie aujourd'hui?
Ouais, je suis heureuse parce qu'à la fois, ça me permet d'être. J'ai jamais autant bossé et à la fois, je bosse dans quelque chose qui me plaît, quoi. Donc, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment un travail. Donner des cours de yoga ou prendre un cours de yoga, ou c'est comme faire un rendez-vous. C'est-à-dire, c'est tellement important mon équilibre que je suis genre aujourd'hui, mes respirations, mes cours de yoga, ça pourrait être quelque chose en mode, bon, Charlotte, elle bosse pas, elle fait des cours de yoga toute la journée. Non, en fait, pour moi, c'est tellement important à mon équilibre. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'impose à tout mon staff. Tout le monde a des cours de yoga quasiment tous les jours, ils peuvent tous aller à n'importe quel cours de yoga, ils ont des tarifs préférentiels pour l'ostéo, donc pour moi c'est tellement quelque chose qui m'aide à aller mieux tous les jours et à être plus efficiente, plus efficace, et que j'ai envie de partager avec mes clients, avec mon staff.
Mais tu travailles combien d'heures par jour?
Je sais pas, y a des journées où je vais me prendre le journée off mercredi parce que genre j'ai juste besoin d'être seule. Voilà, et globalement, je vais lire des livres sur le yoga, ça va me nourrir un peu ma créativité. Je vais écouter des podcasts, je vais, je sais pas, écouter Sadhguru ou le Dalai Lama concrètement. Et il y a d'autres jours où je peux arriver à 7h30 et je finis, il est 1h du matin, quoi. Parce que j'ai fait des points avec tout le monde, parce que il fallait être là au service parce qu'il y avait un gros événement, parce qu'il y a eu une chambre qui n'a pas été faite où il faut concrètement que je la fasse en 3 minutes. Donc, je suis aussi un peu sur le terrain, donc c'est cool.
Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là. Sauf s'il y a des sujets que tu aurais voulu aborder qu'on n'a pas abordé.
Non, on a tout abordé, je pense.
Dernière question. Qui souhaiterais-tu entendre dans ce podcast?
En termes sur la mode, en quoi?
C'est industrie créative et lifestyle.
J'ai un copain qui a monté sa boîte de production. Donc c'est pas du tout ni dans l'hôtellerie ni rien. Il s'appelle Benjamin Demey et qui a une vraie qui est toujours en train de penser les choses différemment, c'est-à-dire voilà comment fonctionne une boîte de prod normale, voilà comment elle devrait fonctionner demain. Enfin, et il est beaucoup sur l'humain, beaucoup sur la confiance, beaucoup dans le développement personnel, et c'est un vrai entrepreneur d'aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire avec les stress d'aujourd'hui, à la fois avec ce besoin d'aller bien. Il travaille beaucoup avec l'humain puisqu'il est producteur d'artistes et d'humoristes. Je pense que sa vision, on va dire, de l'entrepreneuriat, comment monter sa boîte, comment gérer l'humain est ultra. Moi, c'est quelqu'un qui me passionne. À chaque fois que je suis avec lui, je lui dis mais raconte-moi encore comment tu fais, parce que il a une vraie vision différente. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas tant de personnes qui prennent des risques comme ça. Et lui, c'est risque full time parce qu'il écoute son intuition, il écoute son instinct.
Trop bien. Je veux bien une petite intro.
Ouais. Avec plaisir.
Merci infiniment et à très bientôt.
À bientôt.
Salut.
Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, c'est simple. Allez sur le blog du podcast www.entreprendredanslamode.com. Aussi, si vous souhaitez me contacter ou me suggérer de nouveaux invités, vous pouvez le faire sur Instagram sous le pseudonyme @entreprendredanslamode. Enfin, le plus important, laissez-moi un avis sur Apple Podcast ou iTunes, 5 étoiles de préférence. Cela m'aide à faire connaître le podcast à plus de monde et m'encourage à faire de meilleures interviews. Merci de soutenir ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.